Catéchisme de Trente, chapitre 11e, le 10e article du symbole « Je crois à la rémission des péchés ». Ce chapitre se décompose en quatre paragraphes. Il y a dans l'Église un pouvoir de remettre les péchés. À qui a été confié dans l'Église le pouvoir de remettre les péchés? Le pouvoir de remettre les péchés est un grand bienfait. Enfin, comment les fidèles doivent faire usage de la rémission des péchés? Il n'est personne qui, en voyant ce dogme de la rémission des péchés au nombre des articles du symbole, puisse douter un seul instant qu'il se trouve en face d'un mystère tout divin et absolument nécessaire au salut. Nous l'avons démontré précédemment, sans une foi ferme à tout ce que le symbole nous propose de croire, il n'y a point de piété possible. Cependant, si cette vérité, qui est déjà bien assez claire par elle-même, avait encore besoin de quelques preuves, il suffirait de rapporter les paroles que prononça notre Seigneur, peu de temps avant son ascension, lorsqu'il ouvrit l'intelligence de ses apôtres pour leur faire comprendre les Écritures. Il fallait, dit-il, que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât le troisième jour d'entre les morts, et que la pénitence et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. En méditant ces paroles, les pasteurs n'auront pas de peine à voir que s'ils sont obligés de transmettre aux fidèles toutes les vérités de la religion, le Seigneur leur fait un devoir strict et rigoureux d'expliquer avec le plus grand soin ce chapitre de la rémission des péchés. Paragraphe 1er. Il y a dans l'Église un pouvoir de remettre les péchés. Le devoir du pasteur sera donc d'enseigner ici que non seulement on trouve la rémission des péchés dans l'Église catholique, selon cette prophétie d'Isaïe, le peuple qui habitera dans son sein sera purifié de ses péchés, mais encore que l'Église elle-même a le pouvoir de remettre les péchés. Et lorsque les prêtres usent légitimement de ce pouvoir, et selon les règles prescrites par notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons croire que les péchés sont remis et pardonnés. Au moment où nous faisons notre première profession de foi, en recevant le saint baptême qui nous purifie, le pardon que nous recevons est si plein et entier qu'il ne nous reste absolument rien à effacer, soit de la faute originelle, soit des fautes commises par notre volonté propre. Il ne reste non plus aucune peine à subir pour les expier. Mais néanmoins, la grâce du baptême ne délivre personne des infirmités de la nature. Au contraire, nous avons encore à combattre les mouvements de la concupiscence qui ne cessent de nous porter au mal. Et dans cette lutte, à peine pourrait-on trouver un homme dont la résistance fut assez rigoureuse et le soin de son salut assez vigilant pour échapper à toute blessure. Si donc il était nécessaire que l'Église eût le pouvoir de remettre les péchés, il fallait aussi que le baptême ne fût pas pour elle l'unique moyen de se servir de ces clés du royaume des cieux qu'elle avait reçues de Jésus-Christ. Il fallait qu'elle fût capable de pardonner leurs fautes à tous les vrais pénitents, quand même ils auraient péché jusqu'au dernier moment de leur vie. Nous avons dans nos saints livres les témoignages les plus positifs en faveur de cette vérité. Ainsi, dans saint Matthieu, le Seigneur dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Il dit de même à tous les apôtres « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Saint Jean, de son côté, nous assure que Jésus-Christ, après avoir soufflé sur les apôtres, leur dit « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Et il ne faut pas s'imaginer que ce pouvoir de pardonner s'applique seulement à certaines espèces de fautes. Non, il n'en est aucune, si criminelle qu'elle soit, ou qu'on la suppose, que la Sainte Église ne puisse remettre. Il n'est personne, si méchant, si coupable qu'il soit, qui ne doive espérer avec assurance son pardon, pourvu que son repentir soit sincère. Ce pouvoir non plus n'est point limité, de telle sorte que l'on puisse en user seulement dans un temps déterminé. Quelle que soit l'heure à laquelle le pécheur veuille revenir au bien, il ne faut pas le rejeter. C'est le précepte formel de notre Seigneur, lorsque le prince des apôtres lui demanda s'il fallait pardonner plus de 7 fois. Il lui répondit, non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Paragraphe 2. À qui a été confié dans l'Église le pouvoir de remettre les péchés? Si nous envisageons ce pouvoir dans ceux qui doivent l'exercer, nous lui trouvons des limites. En effet, notre Seigneur n'a pas voulu confier à tous les chrétiens une fonction si haute et si sainte. Il en a chargé uniquement les évêques et les prêtres. Si d'autre part nous considérons ce pouvoir dans la manière de l'exercer, il est également limité. Ce n'est que par les sacrements, administrés chacun selon la forme requise, que les péchés peuvent être remis. L'Église n'a pas reçu le droit de les pardonner autrement. Ainsi, dans la rémission des péchés, les prêtres et les sacrements sont de purs instruments, dont notre Seigneur Jésus-Christ, unique auteur et dispensateur de notre salut, veut bien se servir pour effacer nos iniquités et nous donner la grâce de la justification. Paragraphe 3. Le pouvoir de remettre les péchés est un grand bienfait. Afin que les fidèles soient en état d'apprécier comme il convient ce grand bienfait de l'infinie miséricorde de Dieu envers son Église, et par suite d'en profiter avec tout l'empressement du zèle et de la piété, les pasteurs s'efforceront de mettre en pleine lumière l'excellence et l'étendue d'une pareille grâce. Et ils n'auront pas de peine à atteindre ce but s'ils ont soin de bien montrer quelle est la puissance capable de remettre les péchés et de faire passer les hommes du mal au bien. Il est certain que pour produire un tel effet, il ne faut rien de moins que la vertu de Dieu, cette vertu immense et infinie que nous croyons nécessaire pour ressusciter les morts et pour créer le monde. Et même, au sentiment de saint Augustin, faire d'un impie un juste doit passer pour une œuvre plus grande que de créer de rien le ciel et la terre. Si donc il faut une puissance infinie pour créer, à plus forte raison une puissance infinie est nécessaire pour opérer la rémission des péchés. Nos pères ont donc eu grandement raison d'affirmer que Dieu seul peut remettre aux hommes leurs péchés, et qu'un si grand prodige ne peut être que l'ouvrage de sa bonté et de sa puissance souveraine. « C'est moi, dit le Seigneur, lui-même par un prophète, c'est moi-même qui efface les iniquités. » En effet, la rémission des péchés semble soumise à la même loi que l'acquittement d'une dette. Une dette ne peut être remise que par le créancier lui-même. Or, c'est envers Dieu que nous contractons une obligation par le péché. Ne lui disons-nous pas tous les jours dans notre prière « Remettez-nous nos dettes ». Il est donc bien clair que c'est lui, et lui seul, qui peut nous pardonner nos péchés. Avant l'incarnation du Fils de Dieu, ce pouvoir admirable et vraiment divin n'avait jamais été donné à une créature. Jésus-Christ, notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, est le premier qui l'ait reçu, comme homme, de Dieu son Père. « Afin que vous sachiez, dit-il, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, levez-vous, dit-il au paralytique, prenez votre lit et allez dans votre maison. » Il s'est fait homme pour accorder aux hommes le pardon de leurs péchés. Mais avant de remonter au ciel pour y être assis à jamais à la droite de son Père, il laissa ce pouvoir dans son Église aux évêques et aux prêtres. Toutefois, comme nous l'avons déjà remarqué, notre Seigneur Jésus-Christ remet les péchés de sa propre autorité, tandis que les autres n'exercent ce pouvoir que comme ses ministres. Si donc tout ce qui porte le cachet de la puissance infinie doit nous remplir d'admiration et de respect, Comment pourrions-nous ne pas sentir tout le prix de ce bienfait si précieux que Jésus-Christ, dans sa bonté, a voulu nous accorder? Le moyen même que Dieu notre Père a choisi dans sa clémence pour effacer les péchés du monde est aussi très propre à nous faire comprendre l'étendue d'une pareille faveur. Car si son Fils unique a versé son sang, c'était pour nous purifier de nos crimes. Il a subi lui-même de sa pleine et propre volonté le châtiment que nous avions mérité par nos iniquités. Le juste a été condamné pour les pécheurs. L'innocent a souffert pour les coupables la mort la plus affreuse. Réfléchissons en nous-mêmes que nous n'avons pas été rachetés par l'or ni par l'argent qui sont sujets à la corruption, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, le véritable agneau sans tache et sans souillure. Et nous n'aurons pas de peine à voir que rien de plus salutaire ne pouvait nous être accordé que cette faculté de remettre les péchés. C'est qu'en effet, il y a dans ce pouvoir que Dieu nous a donné une preuve de son admirable providence et en même temps de son amour infini pour nous. Voici également une pensée très précieuse en fruit de salut pour tous ceux qui voudront s'y arrêter. Celui qui a le malheur d'offenser Dieu par un péché mortel perd immédiatement tous les mérites qu'il avait pu acquérir par la mort et la croix de Jésus-Christ. Et l'entrée du ciel qui déjà lui avait été fermée une fois, mais que la passion du Sauveur avait de nouveau ouverte à tous, lui est dès lors interdite. Comment ne pas être frappé de la plus vive frayeur à la vue de notre misère, lorsque notre esprit s'arrête sur cette triste réalité? C'est alors qu'il faut reporter notre pensée sur ce pouvoir admirable que Dieu a donné à son Église. Et si nous croyons fermement, d'après cet article du symbole, que la faculté a été accordée à tous de rentrer, avec le secours de la grâce, dans la dignité de leur premier état, il est impossible de ne pas concevoir la joie la plus vive, l'allégresse la plus entière, et de ne plus rendre à Dieu d'immortelles actions de grâce. Et certes, si nous avons l'habitude de trouver bon et désirable les remèdes que l'art et la science des médecins nous préparent quand nous sommes attaqués de quelque maladie grave, combien ne devons-nous pas trouver plus agréables encore les remèdes que Dieu, dans sa sagesse, a bien voulu mettre à notre disposition pour guérir nos âmes et leur rendre la vie de la grâce. D'autant que ces divins remèdes ne donnent pas seulement une espérance douteuse de guérison, comme ceux des hommes, mais qu'ils procurent infailliblement la santé spirituelle à tous ceux qui la désirent. Paragraphe 4. Comment les fidèles doivent faire usage de la rémission des péchés. Après avoir fait connaître aux fidèles l'excellence d'un pouvoir si étendu et si admirable, il y aura lieu de les exhorter à en profiter, avec beaucoup de soin, pour le plus grand bien de leurs âmes. Il est difficile que celui qui ne fait pas usage d'une chose utile et nécessaire ne semble pas la mépriser. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ n'a donné à son Église le pouvoir de remettre les péchés que pour mettre à la disposition de tous ce remède salutaire. Comme personne ne peut se purifier sans le baptême, de même, après avoir perdu la grâce baptismale par le péché mortel, nul ne peut la recouvrer qu'en recourant à cet autre moyen d'expiation qui s'appelle le sacrement de pénitence. Mais il faut bien avertir les fidèles qu'une si grande facilité de pardon, si étendue du côté des fautes et si illimitée du point de vue du temps, ne doit point les rendre plus libres pour se livrer au péché, ni plus lents pour se repentir. Dans le premier cas, ils seraient évidemment convaincus de mépris injurieux pour cette divine puissance, et par conséquent ils seraient indignes de la miséricorde de Dieu. Dans le second, il y aurait grandement à craindre qu'ils ne fussent surpris par la mort, et par conséquent que leur foi à la rémission des péchés ne devint inutile, parce que leur retard et leurs atermoiements leur en auraient fait justement fait perdre tous les avantages. Copyright jésus-marie.com, le 11 novembre 2009. Fichier placé sous licence Creative Commons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.